autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait...
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission mensuelle de sortir du nucléaire Drôme Ardèche. Par cette belle journée ensoleillée, et comme le disait Albert Jacquard, nous profitons de la plus grande source d'énergie qui est le soleil. Donc c'est dans une ambiance estivale que nous allons attaquer notre émission. Alors c'est encore une fois une émission un peu particulière. Nous faisons suite à notre grand rassemblement du 29 mars 2014 à Valence, où près de 300 personnes se sont rassemblées pour parler du nucléaire. Ça avait été pour nous l'occasion de rencontrer des scientifiques, des militants anti-nucléaires. Le mois dernier, nous avons passé certains des entretiens et nous allons continuer aujourd'hui avec deux entretiens, celui de Dilderator et de François Mativet sur la problématique des transports de déchets nucléaires et avec Marie qui fait partie des occupants du territoire de Bure, là où on veut entreposer les déchets très hautement radioactifs. Ensuite, nous allons faire un petit retour en arrière avec Albert Jacquard qui nous parlera lui aussi du nucléaire. Et en attendant, notre biétiste spécialisé Fukushima, Georges, va pouvoir nous reparler de la situation au Japon.
Oui, comme d'habitude, alors je ne vais pas vous redire qu'effectivement, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 6 au Japon, donc à Tokyo. Je vais vous parler d'un condensé d'une vidéo de Marco Kaltofen, ingénieur civil et doctorant à l'Institut Polytechnique Worcester, et donc c'est présenté par Fair Wines Energy Education. L'objectif, c'est la recherche des particules dites chaudes, difficiles à détecter, dispersées dans tout le Japon et sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. L'idée, c'est comment les contaminants radioactifs et chimiques se retrouvent-ils dans la poussière domestique? Donc, sont-ils des vecteurs de la contamination du grand public? Les environnements intérieurs tendent à être beaucoup plus contaminés que le voisinage du dehors. Les maisons se comportent comme un piège en collectant les contaminants extérieurs presque 24 heures sur 24. La méthode, des volontaires des réseaux sociaux et des organismes scientifiques bénévoles envoient des échantillons de Tokyo, du nord du Japon, des USA, des échantillons donc de poussière provenant des sacs d'aspirateurs ou de filtres à air domestiques. L'objectif, quelle est l'exposition réelle de la population? La réponse, elle est dans la recherche des particules chaudes. En effet, légalement, vous essayez de trouver l'exposition moyenne des gens et bien sûr sur le seuil d'innocuité de référence. Si vous dépassez ce niveau moyen que vous pensez sûr, vous devez instituer une réglementation ou décider d'une décontamination. Ici, le travail diffère, parce que certaines personnes recevront des doses faibles ou élevées par rapport à la moyenne. Cela dépend de combien de particules chaudes, qui sont des poussières radioactives en nombre très limité provenant de l'accident originel. Donc combien de particules chaudes pourront se frayer un chemin dans l'air jusqu'à la maison de quelqu'un? Il faut qu'elles soient assez petites pour être inhalées et ingérées. En résumé, deux sortes d'exposition. D'abord l'exposition moyenne, et ensuite l'exposition supplémentaire pour certaines personnes due aux particules chaudes, qui sont bien évidemment plus élevées que l'exposition moyenne. Il faut donc mesurer les deux expositions. Pour cela, l'exposition moyenne s'obtient avec la spectrométrie gamma pour déterminer les isotopes radioactifs présents au nombre de 3, souvent, à savoir le césium-134, le césium-137 et le radium-226. Dans une certaine proportion, ce sont des produits fossiles liés à Fukushima. L'étape 2 de la recherche des particules chaudes passe par le tamisage des particules les plus fines, réparties sur une plaque de cuivre, ensuite exposées à un film sensible aux rayons X pendant une semaine. Après le développement, s'il est positif, les particules dont l'endroit est identifié sont prélevées et analysées au microscope électronique. Quand les éléments radioactifs, américium, plutonium, radium, uranium, sont reconnus, le but est atteint, leur taille et leur forme permettant de connaître leur histoire. Cela ressemble à un fragment de béton ou du sable noir, issu du nord du Japon, sous microscope. 25% des échantillons contenaient au moins quelques particules chaudes mesurables. Ces données, le nombre de particules chaudes par échantillon en perspective, vont être soumises à un comité de lecture à l'Institut Polytechnique de Worcester pour publication. Il est donc possible de trouver la vraie valeur d'exposition qui prend en compte, outre les valeurs moyennes habituelles, la probabilité d'être exposé à une particule chaude, ce qui permet d'évaluer le niveau réel de dommages sanitaires potentiels, à savoir les risques de cancer. Cette étude n'est bien sûr pas publiée au Japon dans les médias, ni par TEPCO. Il y a même un risque qu'elle tombe sous le coup de la nouvelle loi sur les secrets d'État. La particule la plus chaude trouvée au Japon se situe à 480 km de Fukushima. Pour référence, il s'agit d'une vidéo d'Arne Gudjonsson titrée « Fukushima, la particule la plus chaude qu'on ait trouvée », visible sur fukushima.blog. Je vous remercie de votre écoute.
Merci Georges. Ben, après cette intervention très technique sur les recherches, je vais rester un petit peu sur Fukushima aussi, mais dans un autre domaine, d'une certaine façon, celui de la littérature. Ce vendredi 11 mars 2011, il était exactement 14h11 et 44 secondes lorsqu'au Japon la Terre s'est mise à trembler. C'est une chose d'une horreur sans nom que tout voir autour de soi, la grande Terre bouger, comme emplie tout à coup d'une vie monstrueuse et autonome. Dès notre arrivée à Tokyo, accueillis par ces frissons de la Terre, ces grondements sous nos pieds, ces conflagrations incessantes, nous avions compris de quel cyclope à demi endormi sous le feuillage et les fleurs nous étions les hôtes. Ce sont là des phrases de Paul Claudel, l'ambassadeur de France au Japon et écrivain, qui avait vécu sur place le grand séisme de 1923. Faisant la même expérience 90 ans plus tard, l'écrivain français Michael Ferrier, qui réside à Tokyo, emprunte ces phrases à l'auteur de Connaissances de l'Est, ajoutant aux mots de Claudel les siens, précis, sensibles, sensuels même. Des mots qui veulent non seulement raconter la catastrophe, la dépeindre en termes minutieux, mais aussi la penser, la méditer, lui donner un sens. C'est tout le sens et toute la volonté de la littérature. Un court extrait de ce livre passionnant et que nous vous recommandons sur un petit village qui pourrait être un de nos villages, Dromois ou Ardéchois. Je cite. Titatemura est situé dans une cuvette, adossée à une montagne. Ce qui faisait son charme est maintenant devenu son pire cauchemar. La radioactivité qui s'échappe continuellement de la centrale nucléaire qui se trouve à quelques 40 km au nord est bloquée par la montagne et s'accumule dans le piège de la cuvette. C'est ce qu'on nomme un hotspot ou une tache de léopard. Ici, le dosimètre peut passer en quelques minutes de 0,3 à 3,2 microsieverts par heure. L'un des plus beaux villages du Japon est aujourd'hui l'un des plus dangereux. Sur la droite et sur la gauche s'étendent des rivières. Un vieux paysan s'approche. Il est étonné de nous voir ici. Nous entamons la conversation. Il nous explique que le village était connu pour le saké, le champignon et le bœuf. Il y a ici un élevage labellisé. Le label, c'est Itatemura Jiu, qui correspond à une appellation contrôlée, comme on en connaît beaucoup dans nos régions. On vendait une seule de ces bêtes, 1 million de liens, plus de 9000 euros. Label rouge. Depuis l'explosion de la centrale nucléaire, c'est une étiquette pestiférée. Plus personne ne veut en acheter. Il y a aussi un tabac célèbre, celui qui sert à confectionner les cigarettes Caster, popularisé par l'acteur Tatsuyama Fuji après le succès du film L'Empire des Sens. Tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. Itate est en train de devenir un vaste champ abandonné. Voilà quelques petits passages de ce roman, paru en édition folio de poche, Récit d'un désastre, de Michael Ferrier. Et maintenant, eh bien, nous passons à la musique. À tout de suite.
Passer cette limite, votre ticket n'est plus valable, monsieur. passé cette limite, il serait préférable, monsieur, que vous fassiez demi-tour. Demi-tour. Vous n'avez plus les moyens, et c'est bien regrettable, mon vieux. Car sans les moyens, je devrais, c'est regrettable, mon vieux, vous frappez comme un sourd.
Pala 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 non. Pala 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 non plus non non. Pala 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 non. Pala pala.
Dieu que mon pays ait les faux maintenant des papiers pour sortir de la chelem. Quelqu'un peut m'expliquer que le cloche peut plus se coucher au pied de mon HLM.
Pala 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 non. Pala 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 non plus non non. Pala 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 non. Pala pala.
Passer par là pour vous c'est plutôt la sortie, vaut mieux. Dehors il y fait froid, faut pas rester ici, vaut mieux. Je te fais pas un discours. Je te fais pas un discours. Je comprends votre désarroi, vous ne pouvez ici vouloir l'argent des rois. Ça vous est interdit, ça ne se fait plus par là. Ça ne se fait pas ici, par ne te tourne pas. Et cours.
Pala 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 non. Pala 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 non plus non non. Pala 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 non. Pala pala.
Eh ben, ce groupe Quartier du Vent, qu'on a un petit peu interrompu vu notre retard, nous permet de rappeler un peu ce qui s'est passé le 19 avril. Sortir du nucléaire a fait un grand rassemblement. Il y a eu à peu près 300 personnes qui sont venues, ce qui est bien pour la vallée du Rhône. Nous avons à cette occasion rencontré pas mal de militants, de chercheurs, etc. Le mois dernier, nous avons passé quelques interviews. Nous continuons donc cette série d'interviews qui avait été faite sur place, notamment avec Didier Lator et François Mativet. Eh bien, passage de l'interview de Didier et de François.
Bonjour François et bonjour Didier. Vous venez de participer ce jour à la journée antinucléaire organisée par Sortir du nucléaire Andromardèche à Valence. Et vous êtes intervenu sur un atelier qui concerne les transports de matières nucléaires. Donc tout d'abord, une petite question générale à toi François. Est-ce que tu peux nous dire combien de transports de matières nucléaires sillonnent la France chaque jour ?
Alors, la réponse est très claire, elle est non, puisque en fait, ce chiffre-là, il est connu de personne. Même l'autorité de sûreté nucléaire, quand on lui demande, elle n'est pas capable de répondre. On sait que c'est beaucoup. Ils nous ont donné un chiffre que j'ai pas retenu en nombre de colis, mais même eux sont pas sûrs de leur chiffre. Donc c'est vraiment énormément. En Vallée du Rhône, puisqu'on est là, c'est une quantité colossale de colis, mais pas seulement, puisque aussi bien les déchets que les matières nucléaires sillonnent toute l'Europe. On sait qu'il y a des colis qui viennent d'Allemagne, de Hollande. Il y a le Yellow Cake qui arrive au port du Havre, mais il arrive aussi par un port allemand. C'est de partout. C'est juste atterrant.
Ok, donc à la question quelles sont les populations concernées et sont-elles informées, la réponse bien évidemment est difficile
tout
à donner. Et tout le monde.
Tout le monde, il n'y a pas d'exception malheureusement en France.
D'accord, et qu'en est-il pour les agents de la SNCF et également parfois les personnels de gendarmerie qui sont amenés à encadrer et à transporter ces matières? Est-ce qu'elles sont formées? Est-ce qu'elles ont un suivi des doses reçues, etc.? Est-ce qu'elles sont soumises en fait à la réglementation du travail qui s'applique aux travailleurs du nucléaire?
Pas du tout. Ces personnes-là sont comme vous et moi. Voilà, elles ont pas de suivi particulier. Elles ne, malheureusement, elles portent pas de dosimètre. Et pour certaines, ça leur est même interdit. Ça, je l'ai appris très récemment. Les chauffeurs de l'MC Areva ont l'interdiction de porter des dosimètres. Ils reçoivent effectivement pour certains des formations, notamment pour les chauffeurs routiers. Tout à l'heure, le copain nous disait que pour ce qui concerne les chauffeurs SNCF, il n'y a pas de formation spécifique. Quelquefois, ils savent même pas ce qu'ils ont dans le dos, dans les wagons. Donc voilà, on est sur. Sur des choses qui sont totalement irréalistes au regard des matières qui sont transportées.
Donc le réseau Sortir du Nucléaire et les nombreux groupes qui le rassemblent, notamment Sortir du Nucléaire 34, donc l'ERO, mènent un certain nombre d'actions contre ces transports. Quel type d'actions sont réalisées?
Là, je vais plutôt laisser répondre Didier, puisque c'est lui qui a été le grand maître d'œuvre sur la dernière action réalisée autour de la Comurex Malvézy-Narbonne. Pour ce qui me concerne, puisque moi je suis de la maison de Bure, ils nous ont montré l'exemple et on va le suivre très très bientôt là-bas à côté de Bure.
Didier.
Disons que nous, en fait, on a, y a un groupe local sur l'Aude qui essaye d'informer sur les activités de la Comurex et notamment les transports qui sont fréquents et qui sont quotidiens. Donc ce groupe distribue des tracts, mais il n'y a jamais eu du coup de réelle information qui a percé. La population de Narbonne est très peu informée. Donc on a décidé en fait cette année de bloquer un camion. Il y a 3 à 5 camions du F4 qui est le premier stade de transformation d'uranium. Donc 3 à 5 camions qui sortent de l'usine de la Comurex, qui est la porte d'entrée de l'uranium en France, puisque tout l'uranium en France passe par la Comurex. Il y a 3 à 5 camions qui du F4, qui est la matière première qui a subi sa première transformation, qui va ensuite rejoindre la Comurex de Pierrelatte en empruntant l'autoroute A9, l'autoroute A7. Il n'y a pas de plan spécial de prévu en cas d'accident. Les maires ne sont pas informés ni de la régularité des transports, ni des quantités transportées, et ne peuvent donc pas informer les populations. Ces camions passent par l'autoroute, s'arrêtent parfois sur des aires, et les usagers de la route, de l'autoroute, ne connaissent pas ces camions. Donc en fait, on a fait une action de blocage, une action de désobéissance civile non violente. On a bloqué un camion, on a tenu une demi-heure, on va dire, et puis on a été expulsé par les flics. Mais ça nous a permis de mesurer la radioactivité à 1 mètre du camion, c'est 45 fois la dose dite normale de radioactivité. On a pu prendre des vidéos, montrer ces camions aux populations et donc informer et porter. Voilà, c'est aussi nos observations qui nous ont permis de dire qu'il y avait 3-5 camions. On connaissait les quantités en termes de tonnage, mais pas en termes de camions. Voilà. À l'issue de cette action, une copine a été interpellée, celle qui avait arrêté le camion avec sa camionnette. Elle est passée en procès. Le procès nous a permis aussi de médiatiser pas mal, puisqu'il y a même eu un reportage sur Arte, des reportages sur FR3, il y a eu une émission de radio sur France Culture. Donc il y a eu pas mal de choses de faites. Et puis il se trouve qu'à l'issue de ce procès, auquel 23 comparants ont souhaité...
Quels ont les suites, les condamnations?
Les condamnations, en fait, les 23 comparants en tant que tels n'ont pas été retenus en tant que comparants. Hein. Mais ça a permis quand même, ça a donné un délai d'un mois et demi qui nous a permis de faire une réelle information. Mais et contre toute attente, en fait, le procureur de la République a reconnu l'action des militants comme étant une action importante, même quand elle est à la limite de la légalité, puisque c'est ça qui parfois fait avancer la société. Ce sont les termes mêmes du procureur. Donc il a demandé une dispense de peine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est une action qui, de notre point de vue, est un réel succès.
Après Didier et François qui sont intervenus lors de cette réunion sur les transports, on a eu l'occasion de rencontrer Marie. Marie, c'est une résidente de la maison de Bure. La maison de Bure, c'est le centre d'enfouissement des déchets de très haute activité qui est prévu dans l'est de la France. Une maison a été achetée par les militants antinucléaires. Elle est occupée tous les jours maintenant par de nombreux jeunes qui viennent régulièrement. Et Marie nous a parlé de cette occupation de la maison de Bure et de leur activité contre ce projet d'enfouissement.
25 sites avaient été approchés pour accueillir les déchets nucléaires de haute et moyenne activité. Pourquoi Bure a-t-il été le seul à être retenu?
Je pense qu'il a été retenu Principalement parce qu'il y a eu peu d'opposition à Bure comparé aux autres sites qui avaient été choisis où il y a eu vraiment une mobilisation des habitants très 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 importante. Et, voilà, dans différents départements, il y a même une bande dessinée qui s'appelle Village Toxique qui se passe dans les Deux-Sèvres, qui explique un petit peu voilà, tout ce que les agriculteurs et les habitants et les paysans ils ont fait juste pour mettre l'Indra dehors. Ça donne envie que ça se passe comme ça par chez nous aussi. Mais bon, il faudrait être un peu plus nombreux, il y a peu d'habitants en Meuse.
La poubelle souterraine, appelée stockage géologique en profondeur, qu'entrée si elle est réalisée 15 km² de galerie, hein, si elle est réalisée. Pour combien de déchets nucléaires de haute et moyenne activité? C'est difficile.
Alors, je pense que les chiffres, je les ai pas vraiment. Mmh. Et en plus, on fait pas non plus vraiment confiance aux chiffres de l'Indra.
Ouais.
D'ailleurs, ce 15 km², il est remis en question. Apparemment, ça serait 25 km² maintenant. Mmh. Et alors là, en termes de tonnes et de place que ça prendrait, j'en sais rien.
Parce que ce qu'on se demande toujours, c'est, ils ont prévu ça, donc pour les déchets, mais pour les déchets actuels, pour les déchets futurs,
ça représente, oui. Eux, ce qu'ils disent, c'est que ça représente les déchets actuels et que ça prend pas forcément en compte les déchets à venir si on continue d'en produire encore pendant 20, 30, 50, 100 ans. Si Joe sera vite trop petit.
Tu vis à la maison de Bure ou tu en es proche?
On va dire que j'y vis de temps en temps sur des périodes de 2-3 mois, d'accord. Assez régulièrement.
Et qu'est-ce qui s'y passe alors? Qu'est-ce que c'est que cette maison?
Alors, dans cette maison, il s'y passe un petit peu ce que les gens y apportent, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont envie déjà de prendre de l'information peuvent y passer, y rester un jour, une semaine, un mois. Il y a toujours des travaux à faire parce que c'est une maison... à la base, c'était une grange, maintenant, c'est presque tout confort, c'est-à-dire que c'est chauffé, il y a une cuisine, une salle d'eau, un dortoir. Voilà, mais il y a encore plein de choses à faire, un jardin... Tout ce qu'on peut faire aussi pour faire toujours plus d'informations, c'est-à-dire s'informer nous-mêmes, faire des tracts, des communiqués. C'est aussi un lieu d'échange de savoir entre personnes. Donc il y a des assos qui viennent y faire des stages, y proposer différents stages. Il y a aussi pas mal d'associations qui en profitent comme lieu de réunion, comme lieu de rencontre, pour faire des assemblées, des choses comme ça, pour se réunir. Et puis ça permet d'avoir un pied à terre aussi à Bure et de montrer que l'opposition elle est présente.
Voilà, et bien comme je le disais tout à l'heure, c'était ce grand rassemblement du 29 mars et non pas du 19 avril, là je corrige, a été une occasion effectivement de regrouper une quantité de militants et de militantes sur tous les terrains et puis de pas rester sur la vallée du Rhône qui est fortement nucléarisée, mais de discuter aussi avec des militants antinucléaires, des scientifiques qui intervenaient sur d'autres secteurs, et l'exemple de Marie et de tous les jeunes qui occupent la maison de Bure aujourd'hui est un exemple assez enrichissant. Eh bien, on va passer à Dickengart pour Sacré Géranium et on va retrouver ensuite Albert Jacquard.
Sacré Géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se compte fleurette, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ah, parce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins? Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Et voilà une chanson qu'on a choisie parce qu'elle aurait bien correspondu à Albert Jacquard. Alors Albert Jacquard, tout le monde le connaît. Décédé le 11 septembre 2013 à l'âge de 87 ans. C'était un chercheur spécialiste génétique des populations, rédacteur de nombreux ouvrages de vulgarisation, il était beaucoup connu pour ça d'ailleurs, président d'honneur de l'association Droit au Logement. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler de lui suite à son décès lors de l'émission d'octobre 2013, mais nous gardions par-devers nous un condensé de ses entretiens avec Mathieu Vidard de l'émission La Tête au Carré sur France Inter, émission d'ailleurs que Mathieu Vidard avait repassé le 11 septembre 2013. Et on a choisi quelques extraits de cette interview d'Albert Jacquard, directement centré sur le nucléaire, autour de son livre qui s'appelle « Le compte à rebours a-t-il commencé ?», paru aux éditions Stock. Petit recueil d'ailleurs que nous vous recommandons, là aussi encore un recueil, une recommandation de lecture. Là, ce sont 7 minutes d'entretien, donc centré sur le nucléaire, et on écoute Albert Jacquard.
Je n'avais pas du tout l'idée de commencer par le risque de nucléaire. Et je me suis aperçu, en approfondissant un peu mon information, que le risque nucléaire était la priorité contre laquelle il fallait se battre. Car au fond, l'humanité tout entière peut disparaître la semaine prochaine. Quand on a compris ça, on se dit que la première chose à faire, c'est de le dire, de le répéter, et d'obtenir que, collectivement, les hommes échappent à ce danger monstrueux d'un suicide collectif. Ce qui est le plus important, pour l'instant, pour moi, c'est le risque nucléaire. Et je découvre au passage, en approfondissant un peu ma documentation, que je suis pas le seul à le penser. Et que même quelqu'un comme un ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, l'a déjà dit dans ses mémoires. Mais étonnamment, c'est la grande découverte que j'ai faite, moi. C'est pas d'avoir découvert quelque chose sur l'atome, mais d'avoir découvert qu'un président français avait déclaré, en prenant tout son temps pour y réfléchir, va déclarer que la dissuasion ne tenait pas le coup. Le concept de dissuasion ne peut pas agir, puisque dit un président, celui qui a pour tâche d'appuyer sur le fameux bouton, il dit, si par hasard j'avais besoin de la bombe atomique, je m'interdirais de l'utiliser, quelles que soient les circonstances. Autrement dit, il y a eu au moins un président français qui n'acceptait pas le jeu de la dissuasion. Le danger d'un conflit nucléaire qui balayerait l'humanité, ce danger est exact, il est présent. Ça peut avoir lieu la semaine prochaine. Par conséquent, ça vaut la peine d'en parler, de le dire aux citoyens, et que les citoyens se manifestent à ce propos. Il est monstrueux de penser que, au cours des dernières élections, il n'a pratiquement pas été question, et que personne ne savait que, dans un livre qui a été publié tout à fait normalement, le président Giscard d'Estaing a pratiquement détruit le concept de dissuasion. Ça vaut la peine d'être dit. Eh bien non, personne n'en parle.
Pour quelle raison? Ça n'intéresse plus personne aujourd'hui, ou on n'a pas le sentiment que le danger est réel?
Parce que c'est trop grand. C'est trop énorme.
L'échelle est trop grande?
L'échelle est trop grande. Il s'agit de l'univers. Pas tout à fait de l'univers, de la Terre dans l'univers. Mais c'est pratiquement notre univers. On ne la quittera pas, la Terre. Par conséquent, on se trompe d'ailleurs quand on dit « on va sauver la planète ». Il ne s'agit pas de sauver la planète, au fond. Elle se fout de nous, de la planète. Et nous, on devrait se moquer d'elle. Simplement, il se trouve que c'est sur elle que nous sommes assignés à résidence. Par conséquent, ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité. Il faut avoir des raisons pour la sauver.
C'est le petit jardin du vivant, finalement. C'est ce que vous dites.
Hein.
C'est ce petit jardin de quelques kilomètres, hein, de qui n'est pas très épais.
Quelques kilomètres d'épaisseur, c'est une petite couche autour de la planète. Et c'est là que nous sommes. Et il vaudrait mieux s'arranger pour y vivre correctement. Alors malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Il faut penser que l'humanité vaut la peine d'être sauvée. Sinon, au fond, pourquoi pas? On laisse les tsunamis tout balayer. Mais pour commencer à justifier une action, il faut être conscient sur ce que nous sommes, nous les hommes. Et la première lucidité, c'est la lucidité sur la réalité humaine. Qu'est-ce que je suis? Et la réponse que j'essaie de répéter avec les enfants, je suis, regardez-moi bien, je suis une merveille. Parce que tu es une merveille. Et il y a simplement une merveille plus merveilleuse encore que toi et moi, c'est nous. Nous, quand on est capable de se rencontrer. Bien, c'est à partir de ce constat que nous sommes le produit d'un univers qui nous a fait, je ne sais pas comment, en tout cas il nous a fait, nous sommes là, on va essayer de jouer le jeu d'un univers qui serait aimable avec nous et nous aimable avec lui. Autrement dit, il faut développer deux dialogues, le dialogue de l'humanité tout entière avec la planète et le dialogue des petits groupes humains, les uns avec les autres, sachant se valoriser les uns les autres. Pourquoi pas? Ça dépend que de nous. Le problème est tout différent entre le nucléaire civil et le nucléaire guerrier. Le nucléaire guerrier, il faut vite s'en débarrasser et s'arranger pour qu'il soit complètement démantelé partout. C'est ce que demande maintenant, heureusement, M. Obama. Mais le nucléaire civil, c'est tout autre chose. Mais quand même, quand on sait que le plutonium que nous sommes en train de fabriquer va mettre 25 000 ans à ne perdre que la moitié de son poison, eh bien, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux arrêter les frais. Il faudrait arriver à avoir suffisamment d'énergie sans avoir recours au nucléaire. Car le nucléaire, c'est un cas très particulier. Tout ce qui est dans la nature nous prévient des dangers. Quand les choses sont trop chaudes, trop froides, etc., j'ai des sens qui me permettent de dire « c'est trop chaud, j'enlève ma main ». Tandis qu'avec le nucléaire, avec la radioactivité, je ne suis pas prévenu. Donc c'est tellement différent qu'il vaudrait bien mieux ne plus jouer du tout avec la radioactivité. D'ailleurs, c'est une réalité naturelle qui n'a connue que depuis un peu plus d'un siècle. C'est tout récent. Mmh. On s'est précipité là-dessus, il vaudrait mieux le refouler. Et se dire, mais cherchons de l'énergie ailleurs, il y en a tant qu'on veut. Nous avons une centrale nucléaire formidable qui en a pour 5 milliards d'années, c'est le soleil. Mmh. Ben, utilisons le soleil. Les déchets radioactifs, pour certains, ils disparaissent vite, admettons. Mais d'autres, comme le plutonium, mettent 25 000 ans à perdre la moitié de leur nocivité. Par conséquent, on va les enfouir pour 25 000 ans. Et on va mettre une caserne autour pendant 25 000 ans. C'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Par conséquent, c'est un cadeau empoisonné que nous faisons à nos petits-enfants. Or, ce plutonium, il avait disparu. C'est pas la nature qui nous l'impose. C'est nous qui l'avons refait. Le plutonium a été fabriqué par la Terre dans ses premières périodes, c'est-à-dire il y a 3 milliards d'années. Il y a eu du plutonium, et puis il s'est évaporé peu à peu. Il n'en restait plus du tout. Jusqu'au mois d'avril 1941, quand on a préparé la bombe atomique, et on a refabriqué du plutonium. Maintenant, il y a du plutonium sur la Terre, du fait des hommes et pas du fait de la nature. Bien, il faut dire non. Et pour dire non, on a bien de la peine. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Certainement pas le multiplier, mais essayer de s'en débarrasser de la façon la plus décisive. Voir garde d'autres moyens que de l'envoyer dans l'espace, ailleurs. Mais ça va coûter très cher. Ça vaut la peine, en tout cas, de balayer cette planète des saletés que nous lui avons déposées.
Voilà, dans ces mois de printemps où nous commémorons les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, ça nous paraissait important de recommémorer aussi Albert Jacquard qui nous a quittés, mais que nous, on n'a pas oublié, en sachant que ce qu'il dit aujourd'hui, ce militant qui a défendu les droits de l'homme, qui a défendu les sans-papiers, qui a défendu les mal-logés, etc., dit que pour lui, la lutte la plus importante aujourd'hui, c'est la lutte antinucléaire, c'est celle que nous menons ici à Atomic Mac et à Sortir du nucléaire de Romardèche, et on en remercie encore Albert Jacquard. Et bien maintenant, Jeanne, c'est à toi de nous faire ton petit billet de désintoxication que condamnait Albert Jacquard et dont toi tu travailles à nous désintoxiquer.
Voilà, bonjour. Donc là, je vais aborder simplement l'intox au niveau de la commercialisation internationale de l'EPR. D'après les dirigeants d'EDF et d'Areva, la plupart des hommes politiques et les éditorialistes, la France est à la pointe de la technologie nucléaire avec l'EPR. Sur son site, Areva indique que l'EPR est le seul réacteur de génération 3+ à être commercialisé à une échelle internationale. Voyons ce qu'il en est. Le premier EPR a été vendu à la Finlande avant même le début de la construction de l'EPR français à Flamanville. Le contrat d'origine, signé en 2003 entre TVO et le consortium Areva Siemens, indiquait que le coût de la centrale serait de 3,2 milliards d'euros et que la mise en service aurait lieu en 2009. La réalité du coût à ce jour est de 8,5 milliards d'euros et selon Areva, 86% de la construction est achevée. Il reste donc 14% à construire, mais depuis quelque temps, des différends importants opposent Areva, le constructeur, et l'opérateur finlandais TVO. Les deux groupes se réclament mutuellement des milliards d'euros de dédommagement pour les retards et surcoûts de chantier. Le raccordement au réseau serait donc repoussé à 2018, voire 2020. Ça piétine en Finlande, soit, mais les dirigeants d'EDF, relayés par la plupart des médias français, nous ont annoncé la vente de deux EPR à la Grande-Bretagne le lundi 21 octobre 2013. L'accord nucléaire nous est présenté comme définitif, et il n'en est rien. Cet accord va être étudié en détail jusqu'en octobre 2014 environ par la Commission européenne, et il est probable que cette dernière annule tout, car l'accord en question revient à subventionner l'énergie d'origine nucléaire, puisque la Grande-Bretagne s'engage à acheter à EDF pendant 35 ans l'électricité des réacteurs pour un montant équivalent au double du prix en vigueur outre-Manche. On nous dit aussi que cet accord est la preuve de l'attractivité du réacteur français EPR. La réalité, c'est que les États ne se bousculent pas pour acheter des EPR. Alors pourquoi la Grande-Bretagne a fait ce choix ? EDF a acheté à un prix anormalement élevé, 15 milliards d'euros, alors que la valeur réelle était de 9 milliards, British Energy, renommée EDF Energy fin 2008. Et c'est EDF Energy qui commande deux EPR à EDF en 2013. Le troisième pays à avoir acheté des EPR est la Chine. La Chine, en 2007, a opté pour la construction de deux EPR car l'offre d'Areva était attractive, 3,6 milliards pour les deux. Le projet est dirigé à 70% par l'entreprise chinoise CGNPC, à 30% par EDF. Le coût global du projet est d'environ 8 milliards. Les deux réacteurs en construction, un depuis octobre 2010, un depuis avril 2010, accusent un retard moindre que ceux de la Finlande et de Flamanville, mais ils ont quand même environ 2 ans de retard. Les EPR en Chine ont bénéficié de l'expérience du constructeur chinois, du retour d'expérience des deux EPR de Flamanville et de Finlande, et d'une autorité de sûreté nucléaire moins tatillonne qu'en Europe. Face au retard de livraison, aux coûts exorbitants, EDF et Areva travaillent à une optimisation de l'EPR. Déclaration du patron d'Areva, Luc Oursel, en mars 2014. L'optimisation porte sur des simplifications, de nouvelles méthodes de construction et une rediscussion avec les autorités de sûreté nucléaire pour adapter certaines exigences. Et voilà, la messe est dite, l'autorité de sûreté nucléaire sera moins tatillonne comme celle de la Chine. Mais bien sûr, la sécurité ne sera pas réduite. Nous pouvons croire les dirigeants du nucléaire, ils ne mentent jamais.
Bien sûr, et puis on peut compter maintenant sur le fait que EDF rachète peut-être l'énergie chinoise pour pouvoir lui revendre de nouveaux EPR. Ce sera très bien comme ça. Eh bien, comme on était, je disais tout à l'heure, presque estival avec ce beau réacteur nucléaire qu'est le soleil, notre spécialiste de l'agenda n'étant pas là, c'est moi qui vais faire l'agenda, mais elle m'a fait un très beau billet. Alors, le samedi 10 mai à 15h au camping de Gillac et Brusac, Assemblée Générale de l'association Réaction en chaîne humaine. Le dimanche 11 mai, là vous sortez votre carnet, hein, notre action mensuelle tous les 11 du mois en commémoration de la catastrophe de Fukushima est réalisée conjointement en ce mois de mai avec l'action hebdomadaire du dimanche. Rendez-vous à 12h devant la mairie de votre ville ou du village pour manifester votre opposition au nucléaire et n'oubliez pas de prendre des photos. Le mardi 13 mai, réunion du collectif du collectif Stop Tafta 26 à 18h30 au local de la Frapna, avenue de Verdun à Valence. Alors Stop Tafta, qu'est-ce que c'est? C'est le traité transatlantique, Tafta justement, qui vise à constituer d'ici 2015 un grand espace de libre-échange où le droit des investisseurs prendrait le pas sur celui des gouvernements élus. Négocié en secret, ce projet ardemment soutenu par les multinationales leur permettrait d'attaquer en justice tout État qui ne se plierait pas aux normes du libéralisme. Une pétition est en ligne sur le site http://change.org. Vous pouvez y aller et donc venir à cette réunion le mardi 13 mai à 18h30. Le samedi 17 mai à 20h30, quai de Seine à Bourg-de-Péage, un spectacle nommé CEUX qui reste, élaboré d'après le livre Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. Le spectacle sera suivi d'un débat avec Michel Rivasi. La deuxième représentation sera le mardi 20 mai à 20h30 au même endroit. Le samedi 17 mai également à 20h30, si vous n'êtes pas à Bourg-de-Péage, vous pouvez aller à Saint-Michel de Chabrianou, où là se tiendra un concert du groupe Ardéchois, que nous avons passé tout à l'heure. Le groupe s'appelle les Quartiers du Vent. Nous les recommandons, ce sont des copains et ils sont largement aidés également par la Fédération Syndicale Unifiée, le syndicat des enseignants, donc Saint-Michel de Chabrianou, samedi 17 mai à 20h30. Le lundi 26 mai à 18h30, la réunion mensuelle de sortir du nucléaire Drôme Ardèche au local de la Frapna à Valence. Tous les samedis de 11h à 12h30, le rendez-vous Place Porte-Neuve à Valence, c'est une action sur les fameux cartes PPI, les plans de protection des municipalités. La prochaine émission Atomic Mac aura lieu le lundi 2 juin à 12h15, sans problème technique. Notre numéro de répondeur, si vous voulez nous contacter, c'est le 08 05 69 67 58, 08 05 69 67 58. Cette émission a été préparée et animée par Céline qui est à la technique, Georges, Jeanne et Dominique. Et maintenant, nous concluons cette émission avec Arlie Farka Touré et Ray Cooder sur une jonction de la musique traditionnelle du Mali et de la musique folk américaine. Et nous vous souhaitons un bon mois de mai.